I love the sound of pledges in the morning. It sounds like happiness.
I don't know what I've been told.
I don't know what I've been told.
Funding crowds got a mighty goal.
Funding crowds got a mighty goal.
50 grand for the KUT.
50 grand for the KUT.
Time to pledge for you and me.
Time to pledge for you and me.
Call
90 7 7 9 4 2 4 9 4 2 4.
Call now to donate to CKUT's funding drive, 514-907-9424. Or donate online at www.ckut.ca.
Les ondes de sécurité 90.3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille et nous avons avec nous, comme d'habitude les matins, Ramon Vitesse avec son invité spécial aujourd'hui qui est Jacques Goldstein. Bienvenue à sécurité.
Bonjour, bonjour. Bonjour Jacques, bienvenue. On a la chance de t'avoir ce matin à l'émission Lendemain de la veille sur CKUT. C'est un grand honneur parce que tu es un auteur vraiment redoutable dans le sens le plus beau du terme, dans le sens d'un auteur qu'on aime et un auteur qui rend bien à ses lecteurs et lectrices parce que, bon, d'une part, tu as une production pléthorique quand même sur le plan de la vulgarisation scientifique, aussi du livre pour enfants, avec un imaginaire assez somptueux. Alors, on va essayer d'explorer ça avec nos quelques minutes ce matin, et on va même parsemer ça de choix musicaux. Pour te présenter, peut-être, on peut dire que tu es un chercheur de pépites d'art humain. T'as un diplôme, je pense, même en géologie, quand même particulier. Qu'est-ce qui t'a amené à creuser d'autres sillons, si on peut dire?
Ben, en fait, j'ai toujours voulu faire du dessin, de l'illustration, mais il y a un directeur d'école, quand j'étais petit, qui s'appelait Monsieur Brière, Monsieur Paix à son âme d'ailleurs, et qui faisait le tour des classes et qui demandait aux enfants qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard. Alors, police, très bien, pompier, excellent. Et moi, j'avais dit dessinateur. Je me dis, ah, très bon choix, dessinateur technique, on a besoin de ça dans les usines. Et moi, j'avais dit, non, je veux faire des dessins d'humour. Un peu comme des caricatures et puis des bandes dessinées. Ah, il m'avait dit, oh, tu mettras pas de beurre sur ton pain, toi. Et là, ça m'avait terrorisé à l'époque. Et puis donc, j'avais un plan B, puis c'était la science, parce que j'aimais beaucoup la science. Fait que c'est ça. Donc, je suis devenu géologue, et puis j'ai travaillé en Gaspésie, j'ai travaillé en Abitibi, dans une mine d'or, puis ensuite en Alberta, dans le pétrole. Et puis le hasard a fait que je suis revenu au dessin par un ami qui travaillait pour une maison d'édition, qui avait besoin d'un dessin pour un livre qui s'appelait Le Petit Débrouillard, un livre d'expérience. Je me suis dit, bon, ben, OK, je vais essayer, je suis pas un dessinateur professionnel. Et pourtant, je m'étais pratiqué aussi sur les chantiers. Je faisais beaucoup de caricatures des gens avec qui je travaillais. Puis quand j'étais à l'école aussi, à l'université, ben, je travaillais à l'école polytechnique pour les journaux, toutes sortes de journaux étudiants aussi. Alors donc, j'avais pas trop perdu la main.
Étais-tu au quartier libre par hasard?
J'ai dû faire des dessins pour pas mal tous les journaux. On regardait tout ce qu'ils pouvaient m'imprimer, je le faisais. À un moment donné, t'es boulimique, hein. T'es tellement content quand tu vois ton dessin imprimé quelque part. Écoute, tu paierais pour l'avoir imprimé. Donc, j'ai fait pas mal de journaux aussi pour... Ouais.
dis-moi, qu'est-ce que seraient tes influences, ou en tout cas, quels seraient tes coups de cœur qui ont fait que si jeune, t'as été détourné des trucs sérieux pour désirer profondément t'adonner au dessin? C'est quoi au juste qui t'a éclairé, qui t'a allumé?
Ben, quand j'étais petit, c'est sûr, quand on regardait des dessins, soit dans la presse, je me souviens, il y avait un caricaturiste qui s'appelait Girard. Je comprenais pas toutes les caricatures, mais il y avait quelque chose qui des caricatures politiques, mais ça m'allumait. Je trouvais ça beau d'avoir, quand je pouvais comprendre la caricature, si ça avait rapport avec toutes sortes de sujets, de la consommation, octobre 70, les événements, j'essayais de faire des liens avec ça. Mon père m'expliquait aussi certaines choses. Je me rappelle à l'âge de 9 ans aussi, à l'Expo 67, il y avait un pavillon d'humour, et puis c'était Georges-Émile Lapalme qui était un caricaturiste.
C'était à la presse, hein, je crois.
C'est une bonne question, c'est possible. Je pourrais pas dire, mais je vois ses dessins, et puis c'était quelqu'un qui était vraiment dans l'art graphique aussi, et puis... Donc, il y avait ce pavillon d'humour-là. Il y avait énormément de caricaturistes qui venaient partout sur la planète, et surtout les pays de l'Est, de Pologne, de Roumanie, de Hongrie, de Russie, etc.
Et tu vois, t'es pas d'origine aussi, hein, je pense,
polonais. Ouais, ben, mon grand-père était polonais, et donc tout le monde dans la famille dessinait quand même un peu. Mais et donc, en fait, pour revenir à l'exposition, hein, c'était des dessins sans parole. C'était souvent des dessins qui venaient des pays-là, c'est qu'ils étaient très, très anticapitalistes ou anti-militaristes aussi. Fait que tu comprenais tout de suite de quoi il s'agissait.
C'est très assez emblématique, parce que je sais pas si tu as eu la chance d'aller en Pologne, en banlieue de Varsovie, il y a un musée de l'affiche polonaise.
Ah non, j'ai pas eu la chance. Hein.
C'est absolument renversant, les affiches polonaises. Personnellement, j'y ai passé des heures et des heures. J'étais en état de satisfaction totale devant ça.
Oui, et puis il y avait des journaux satiriques aussi à l'époque en Russie, dans les pays de l'Est. Bon, ben, comme ils étaient extrêmement contrôlés, ben, ils trouvaient un moyen par les dessins d'humour de rire un peu de la situation. Et puis c'était toléré par le gouvernement, parce que bon, il riait des bureaucrates et puis de certains mauvais aspects de la vie quotidienne. Donc ça pouvait passer. Tant que tu t'attaquais pas trop à, comme en Corée du Nord, par exemple, le dessin d'humour n'est pas très la cote, mais il faut trouver le bon filon pour pouvoir survivre.
Donc, en réalité, si on peut dire, t'as deux manelles importantes sur lesquelles t'as tiré, à savoir la question scientifique qui vient aussi de ta formation de géologue, puis ton intérêt pour la science, mais aussi donc l'humour avec ce pavillon d'Expo 67-là, effectivement, qui était quand même quelque chose fait, on avait accès à vraiment énormément de dessins d'humour, puis comme tu dis, ailleurs aussi.
Oui, et puis dans les revues, je me souviens, mes parents, quand ils achetaient Paris Match ou des magazines comme ça, des magazines de français, il y avait Champy qui dessinait là-dedans, il y avait beaucoup de dessinateurs comme Oviniv, il y en avait un qui s'appelait Bosque, B-O-S-C. Un fabuleux dessinateur, extrêmement simple, très, très précis et toujours mordant, vraiment. Et c'était l'époque des années 60 et donc mai 68, la contestation, les ouvriers et tout ça. Puis c'était très drôle.
Il publiait dans Pilote, hein, je crois.
Je ne sais pas s'il a fait dans Pilote. Pas sûr, non.
C'était cette époque-là, en tout cas.
Oui, c'était la même époque. Tout ça s'était mélangé. Il y avait vraiment une effervescence.
Je me souviens de son trait, en tout cas. C'est vraiment un auteur vraiment intéressant, avec un trait. Puis toujours en noir et blanc aussi. Mais si on revient un petit peu à ta production aussi, peut-être, bon, donc, tu as commencé début 1980, comme tu disais tout à l'heure, de 82 à 94, je recensais pas moins de 17 livres que tu as fait au niveau de les débrouillards, ou plus ou moins approchant, là, avec soit chez Héritage, soit chez Bayard, soit chez Québec Science aussi. Donc, les débrouillards, peut-être tu peux nous en dire quelques mots, de même que Van l'inventeur, qui est un personnage, un jeune, un garnement qui crée des choses, qui crée machine.
Oui, c'est bon, tu viens de résumer un peu mon intérêt pour la science, la vulgarisation scientifique. Bon, j'ai étudié là-dedans, ça m'a toujours fasciné. Et puis, encore aujourd'hui, bon, j'ai des connaissances en géologie. Je continue à ramasser des roches quand je voyage. Même à Montréal, on trouve des très, très beaux fossiles. Il s'agit juste d'ouvrir les yeux. Mais, je m'intéresse à la botanique, à l'astronomie. Mais j'y connais pas grand-chose. Et quand je travaille pour des magazines comme Les Débrouillards ou Les Explorateurs, bien, j'en apprends sur les sujets. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir faire des dessins là-dessus et puis d'essayer de transmettre un peu d'humour tout en restant juste dans le contenu scientifique. Donc pour moi, ça c'est important. Et puis, j'étais tellement content de dessiner. Et puis bon, ça venait chercher un peu quelque chose qui me tenait à cœur, la science. Et puis j'en suis venu à la bande dessinée après quelques années au Débrouillard. Avec le personnage de Van l'Inventeur. Donc, Van l'Inventeur, c'est une page de bande dessinée tous les mois depuis 25 ans, on va dans les Débrouillards. Et c'est un personnage qui... Van, c'est un asiatique. Il est né au Vietnam, mais d'une famille chinoise. Bon, lui créer un peu une identité. C'est vrai, il y avait une minorité chinoise qui était au Vietnam. Et donc, il rend service à ses amis. Il est un peu taciturne, il parle pas beaucoup, mais il est très, très prolifique. Et puis, bon, ben, il invente dans tous les domaines des gadgets. Alors, ça peut être le skateboard à réaction, comme ça peut être la machine à simplifier la vie pour faire son lit ou pour porter son sac d'école. Enfin, bref. Et c'est vrai, parce que c'est un personnage qui,
finalement, interagit avec le quotidien. C'est intéressant, oui, pour les enfants, pour les jeunes, de voir ça, de connecter ça au réel.
Oui, mais en même temps, il y a un côté un peu dans l'inventaire, il y a comme un message là-dedans, parce que moi, je suis pas du tout technologique, mais vraiment pas. J'ai un téléphone, je sais à peine m'en servir. L'ordinateur, c'est une vraie comédie chez nous, parce que là, j'aime bien la science, mais je suis pas très technologique. Je roule en vélo souvent. J'aime pas, non. Et donc, Van, pour moi, je fais souvent un petit clin d'œil sur la frénésie technologique à toujours apprendre, à toujours vouloir quelque chose, un nouveau gadget, ça vient de sortir. Et d'ailleurs, Beppo, qui est la mascotte des Débrouillards, qui est une petite grenouille, elle a une phrase qui revient toujours, c'est « humain fou hein ». Et à chaque fois que Van invente quelque chose, un bidule, un gadget, quelqu'un, d'ailleurs, les inventions de Van, ça se termine toujours un peu en catastrophe, en eau du bain. Et donc, Beppo, qui est une grenouille, n'a absolument pas besoin de ces trucs-là, mais il est tellement compulsif qu'il m'en faut, hein, il m'en faut. Et donc, c'est un petit clin d'œil, en fait, à la super consommation. Et c'est ce que je, dans mes bandes dessinées des Débrouillards, à part Van, quand j'aborde des sujets, j'essaie de parler d'environnement, de science, bien sûr, mais il y a un grand, un trait important, ben, c'est la super consommation, vraiment. L'absurdité de toujours vouloir régler ses problèmes avec un gadget technologique.
Si on pouvait parler des lauriers de Goldstein, on pourrait peut-être parler de ta double page dans la revue Curium. Personnellement, c'est une des choses qui m'a le plus fasciné dans ta production, parce que c'est quelque chose qui est, bon, éphémère d'une certaine façon, puis autonome sur une double page, c'est un peu format poster.
Oui.
Et là, tu prends un sujet et tu pars comme en spirale dedans, mais en même temps qu'en spirale, on n'est pas aspiré dans un centre. On va vraiment dans plusieurs directions et ça amène un esprit scientifique, ça amène l'esprit critique dont tu parles, l'espèce de regard en biais ou en tout cas un peu plus imaginatif que seulement créer un gadget, comme tu dis, ou un autre bidule. Et ça, c'est visiblement, en plus, tu as eu un énorme plaisir à le faire parce que le plaisir, c'est communicatif généralement.
Oui, ben c'est ça. C'est une double page dans le magazine Curium qui s'adresse aux jeunes de 14 à 17 ans. C'est un peu le grand frère du magazine des Débrouillards. Et donc, on me donnait carte blanche. Alors, je prenais un thème, admettons, le progrès, ou ça pouvait être l'amour. Et puis là, ben, j'allais un peu dans toutes les directions avec ça, tout ce qui faisait plaisir. Et donc, c'est une multitude de petits dessins, de petits clins d'œil, de petits graffitis. Mais je dirais ça, c'est comme des graffitis, un peu comme des doudounes qu'on fait au téléphone. Mais ça remplissait finalement deux pages. Et puis, ça faisait un peu des clins d'œil à des phrases célèbres, à des œuvres d'art qui existent, à des auteurs, etc. Donc, c'est un peu une espèce de collection. C'est quelque chose qui me touchait un peu à cœur. Et puis bon, ben, c'était vraiment comme des caricatures parfois aussi, vraiment comme des petits règlements de compte aussi.
C'est très belle ruse.
Oui.
Jacques, pourquoi tu faire tourner un disque, Boris Vian, qu'est-ce que tu dis de ça? Ouais, du progrès.
Oui, ça tombe à point nommé. Allons-y.
On écoute ça sur les ondes de sécurité 90.3 FM. On rappelle qu'on a avec nous, dans nos studios virtuels, Jacques Côté.
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère, on dit rentre chez ta mère, et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer, et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas limace, mon tabouret à glace, et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
Mais je vous aime bien, Prévost.
Ce bien me crève le cœur.
Vous avez un cœur?
Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur.
Je le remercie.
En lui prenant sa femme.
Vous n'avez jamais envie de vous venger?
Pourquoi? Regardez autour de nous. Toutes les femmes s'ennuient autant avec leurs amants qu'avec leurs maris. Avec Valmont, je ne m'ennuie jamais.
C'est bien ma chance. Il y a encore à Paris une femme fidèle, et c'est la seule dont je sois amoureux.
Un conseil, Prévost. Essayez d'aimer Loulou du chemin.
Ben voilà pour ta première suggestion musicale, Jacques. Boris Vian, La complainte du progrès.
Oui, bon, ça rejoint un peu la frénésie technologique de toujours vouloir acheter quelque chose, accumuler des biens, et puis régler les problèmes de sa vie avec des inventions. Non, c'est peut-être pas la solution.
Non, définitivement pas. Jacques, tu parlais tantôt de revues que tu lisais quand tu étais garnement. Tu as participé à énormément de revues. Tu parlais donc du plaisir de se voir publier. Tu as participé à l'aventure de Crow, tu as publié dans des gazettes, mais aussi dans des journaux beaucoup plus underground comme le journal Le Couac, l'autre journal. Un journal très proche du milieu syndicaliste, mais aussi Amnesty International. Et on va aborder ça certainement avec ta production de livres jeunesse, parce que là, ça se reflète diablement. Mais tu as publié aussi dans Québec Oiseau, la a vu relation. Et à l'occasion aussi, sous un pseudonyme qui est Boris. Boris, juste une curiosité, est-ce que c'est un des personnages qu'il y avait dans Tintin, des deux espions?
Ah, tiens, ça aurait pu être ça. Mais non, c'est pas ça. C'est tiré d'un caricaturiste russe. Je me suis inspiré d'un type qui s'appelait Boris Yefimov. Yefimov. Et c'est un caricaturiste de l'époque de Staline, à l'époque de Hitler aussi. Il a fait des caricatures antifascistes assez hallucinantes. C'est un dessinateur fabuleux. La façon dont il dessinait Hitler, c'était incroyable. Et toute sa bande, Goering, Goebbels, etc. Et très, très, très mordant. D'ailleurs, ses caricatures étaient tellement dévastatrices que Hitler avait dit « Quand je vais arriver à Moscou, je vais mettre la main sur ce gars-là, puis ça va aller mal pour son matricule. » Alors, il a été dans les bonnes grâces de Staline pendant toutes les années, mais il est mort à 101 ans. Donc, il a survécu Staline. Mais à chaque fois que le téléphone sonnait, il avait peur que ce soit une invitation au peloton d'exécution. Puis finalement, non, Staline aimait bien vraiment ses dessins. Donc, il était un peu sur la corde raide. Il a fait très, très attention. Par contre, son frère, qui était journaliste, lui a été exécuté par Staline. Donc, c'était une drôle d'époque. Oui, c'est ça. Moi, tu as mentionné Amnesty International, tu parles du couac. Et à un moment donné aussi, c'est une espèce une forme de liberté de pouvoir décider sur des thèmes que tu aimes. Bon, ben, les prisonniers d'opinion, les gens qui sont retenus pour leurs idées, que ce soit des enseignants, des syndicalistes, des artistes qui sont en prison en ce moment à travers le monde. Des blogueurs comme Raïs Badawi en Arabie Saoudite, ça me sidère. Des fois, ça m'empêche carrément de dormir. Et c'est pas un film d'Hollywood, ça existe pour vrai. Il y a des gens qui, pour leurs idées, pour simplement un trait d'humour ou pour avoir incarné plus de droits pour des gens marginaux, mais ils sont enfermés en prison, ils sont torturés et tout.
Il y a un des livres jeunesse qui a comme aussi le logo de l'Amnesty International. C'est lequel, déjà?
Tu parles d'un livre?
Que ce soit Les prisonniers sans frontières?
Oui, ben je collabore donc avec Amnesty International depuis quelques années, puis un jour, en rendant une réunion, à propos du marathon d'écriture, parce que chaque année, au mois de décembre, se tient le fameux marathon d'écriture, qui touche toute la planète. Et donc, simplement au Québec, on parvient à écrire jusqu'à 80 000 messages, 80 000 dessins en tout, qui sont envoyés à des prisonniers d'opinion, des messages d'encouragement pour leur dire « bon, lâchez pas, on pense à vous ». Et moi, je croyais au début, quand j'ai entendu parler de cette campagne-là, que c'était un coup d'épée dans l'eau, que ça servait absolument à rien, parce que les messages sont envoyés, puis bon, ils ont juste à les détruire. Ça marche pas tout à fait comme ça. Il y a certains pays, mettons, au Mexique ou au Brésil, il y a des gens qui sont emprisonnés, par exemple, des militants, des environnementalistes, des enseignants qui sont emmerdés par le pouvoir, qui sont jetés en prison, qui sont un peu oubliés, là. Et là, à un moment donné, le fait de recevoir des centaines de lettres, ben, ça réveille un petit peu l'administration de la justice là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois pelés de tondeux qui sont dans nos prisons. On va essayer de les sortir. On va s'en débarrasser parce que ça nous fait une mauvaise publicité. Et ça marche beaucoup comme ça. Ça réveille un peu. Ça sonne les cloches.
Une sorte de harcèlement militant, si on peut dire.
Oui. C'est sûr que quand tu es en prison en Corée du Nord, ça fait pas grand chose, mais il y a certains pays qui n'aiment pas avoir justement quelqu'un qui le petit grelot qui est attaché après ton caleçon. Donc, comme ça.
On pourrait peut-être parler maintenant de livres jeunesse. T'en as neuf qui te sont crédités. En fait, t'en as même un dixième qui vient de sortir chez La Pastèque, l'éditeur aussi de bande dessinée, mais également depuis quelques années de livres jeunesse. Ça s'intitule Le tricot. Un très beau livre en page couverture. On a un tricot qui serpente sur la page couverture avec des magnifiques aquarelles. Peut-être tu peux nous parler un peu de ton parcours dans un premier temps, puis aboutir au tricot, ou comme tu le souhaites. En fait, on parle de liberté, alors on va pas t'embêter.
Mais le dessin, ce sont des livres pour enfants, mais... comment j'en suis venu à ça? Très tardivement. Je pense que le premier livre que j'ai fait, ça s'appelle Le Petit Tabarnak, qui a été publié à la Pastèque. Et bon, c'est pas un titre qui est facile. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui veut savoir qu'est-ce que c'est ce mot-là, d'où ça vient. Parce que souvent, cette année, j'entendais mon neveu et ma nièce qui se disputaient. Et puis, à un moment donné, j'étais allé les voir, puis je leur ai dit, ben, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, tu sais? Alors, eux, ils savaient pas. Ils pensaient que je les chicanais, mais je voulais savoir s'ils connaissaient l'étymologie, non? Et non, pas du tout. Et donc, l'idée est un peu venue de ça. Et pour montrer que, bon, une maison d'édition comme la Pastèque, bon, on peut faire ça, cette maison d'édition-là. On peut aller dans cette direction-là.
Et peut-être que chez Bayard, qui est un éditeur d'obédience catholique, en tout cas, peut-être un peu moins maintenant.
Un peu moins, exactement. Donc, en fait, les maisons d'édition, c'est un peu comme des amis. Hein. Il y a des gens qui vont faire... On peut avoir un ami qui est bon au hockey, l'autre qui est plutôt artiste, etc. Bon, ben, les maisons d'édition, c'est un peu le même principe. Mais comment je pourrais dire? J'essaie de me rappeler, moi, quand j'étais... J'ai deux enfants maintenant qui sont assez âgés, qui ont 28 ans, 26 ans. Mais quand ils étaient enfants, c'est moi qui allais à la bibliothèque avec eux. Ils se choisissaient des livres et j'en prenais moi aussi. Et je me gâtais pour pouvoir raconter des livres. En tant que parent, t'as envie de lire des histoires qui sont le fun, qui vont faire endormir. Et donc, c'est un peu ça. Je raconte des histoires pour me faire plaisir. Je pense pas aux enfants. C'est très égoïste. Je pense à moi quand je fais ces contes pour enfants-là. Et puis,
Mais d'ailleurs, Jacques, si tu me permets, les livres pour enfants, entre guillemets, pour enfants que tu fais, c'est des livres pour tous et toutes. C'est des livres, dans le fond, un bon livre, d'après moi, jeunesse, c'est un livre qui rejoint le cœur de tout être humain.
Oui.
Peu importe son âge, on n'en a vraiment rien à battre. Et l'intérêt de tes livres, justement, jeunesse, c'est que c'est des livres qui intéresseront des parents, qui intéresseront des jeunes adultes, pour peu qu'ils vont les ouvrir.
Oui, ben en fait, j'aime bien mettre des clins d'œil dans le livre sur, admettons, par exemple, dans l'histoire du tricot. Alors, c'est une grand-mère, une fabuleuse tricoteuse, et qui a fait des tricots, qui a récupéré la laine. Donc, il y a un des tricots qui a servi à son frère qui était à la grève de l'amiante en 1949, une grève vraiment terrible. Et son frère, donc, était militant, puis il avait une espèce de chandail rouge, il s'en servait comme d'une espèce d'étendard. Alors, bon, dans le livre sur le tricot, il y a toutes sortes d'origines. Il y a tel de foulard kaki en laine de Shetland qui a servi à faire le foulard d'un frère qui s'en allait au front. Et puis, donc, il y a différentes utilisations des différentes laines. Et donc, moi, je me régale en mettant une petite mise en contexte autour de ça. Donc, il y a un moment donné aussi, ma grand-mère a fait une espèce de tricot qui est une œuvre magistrale. Et si on regarde comme il faut, le tricot, il y a des motifs et ça ressemble un peu à des combats, ça ressemble, à une scène du Moyen-Âge. Ben, c'est un peu comme si elle avait fait la tapisserie de Bayeux en foulard.
En longueur.
Oui, ben, c'est ça. Alors, ouais, donc tout ça, ça se retouche un peu, c'est drôle parce que c'est des sphères qui sont différentes. On va me dire, je fais de la science, je vais faire par exemple des dessins un peu plus militants ou de la caricature politique un peu plus engagée, et puis je vais faire des livres pour enfants, mais tout ça, ça se rejoint un peu. Je me force pas à faire quelque chose comme ça. Moi, travailler pour, je sais pas, moi, faire des dessins pour le Canadien de Montréal, ça m'intéresserait pas vraiment. mais ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une seconde nature pour moi.
Oui, effectivement, ça se voit. Puis, en plus, comme certains auteurs qu'on qualifie de jeunesse, tu as gardé aussi le dynamisme, le côté narrativité de la bande dessinée. C'est pas seulement des dessins à coller ensemble, mais il y a vraiment une dynamique qu'on sent comme propulsée dans l'histoire. Ici, bon, le trait d'union, si on peut dire, c'est un peu le foulard qui est détricoté en allant vers l'école et que la petite fille va ramasser la laine en revenant et toute penaud dire à sa grand-mère, « Ben écoute, peux-tu me le tricoter? » Et là, c'est le punch de l'album. La grand-mère qui dit non. La petite fille est vraiment sur le cul, quoi. Et là, elle lui fait peut-être le plus beau cadeau du monde en lui disant, « Ben, je vais
faire ça. » Il faut pas donner le punch.
Mais au contraire, c'est tellement bon, c'est tellement bien dessiné, c'est tellement... Je pense que j'ose espérer que nos auditeurs auditeurs, nos auditrices vont se précipiter pour découvrir cette narrativité-là qui est vraiment magique, qui est une histoire de transmission, oui. Une histoire intergénérationnelle, une histoire, sérieusement, qui va faire du bien aux gargotons dans ces temps difficiles.
Oui. Et c'est drôle parce que les gens me posent la question, est-ce que tu tricotes? Je n'ai jamais tricoté de ma vie, même pas un rang, même pas une maille. J'étais entouré de personnes qui tricotaient. Et donc, et l'idée est venue par une de mes bonnes amies, Barbara, qui, elle, est une tricoteuse fabuleuse et qui m'a amené sur ce terrain-là, une grand-mère de sa petite fille et d'un foulard magique là, qui se détricote et qui va être le point de départ de la carrière de tricoteuse de ma petite fille. Mais donc, c'est pas une corvée pour moi. C'est un sujet comme ça, ça vient me chercher parce que je peux y greffer différentes choses. Je peux penser à ma mère qui faisait du tricot. Je peux penser à différentes scènes. Je suis un bon observateur. J'aime bien voir des choses qui se passent dans la vie quotidienne. Alors, j'ai mis des travailleurs, j'ai mis des
scènes de l'assemblée. T'as même aspergé la statue de McDonald's,
oui,
un pot de peinture rouge, t'as
oui,
ça,
oui, c'est un petit clin d'œil. Mais c'est drôle parce que ce dessin-là, je l'ai fait avant que la statue soit déboulonnée, la statue du centre-ville de McDonald's. Je voulais montrer la petite fille qui passait au départ devant la statue et qui, après ça, repasse pour quand elle récupère la laine, parce qu'il faut savoir que son foulard se détricote quand elle s'en va à l'école. Quand elle revient, elle récupère la laine. Et donc, je voulais représenter des scènes qui changeaient. Donc, une des scènes, c'est ça, c'est il y a un pot de peinture rouge sur la tête de McDonald's. Mais c'est, la réalité, elle m'a dépassé parce que finalement, la statue elle-même a disparu de son socle du centre-ville de Montréal.
Jacques, on a détricoté tout notre temps, presque, peut-être juste conseiller fortement d'explorer ta bibliographie. Mm-hmm. On pourrait nommer aussi ton livre « Les étoiles » qui est publié en 2019, outre ta nouveauté « Le tricot ». Un très beau livre sur des communautés, finalement, qui sont un peu comme chien et chat. Et
oui.
Les enfants font mentir cet aspect chien et chat pour, je dirais, la beauté du regard, la beauté de flirter ensemble. Et c'est absolument magnifique. Jacques Goldstein, merci beaucoup de ta participation à cette émission. On rappelle aussi tout l'aspect scientifique de ton œuvre, que ce soit Les Débrouillards ou Van l'Inventeur à découvrir. On pourrait peut-être s'achever avec un clin d'œil à la surconsommation à cette période-ci de l'année. Qu'est-ce que tu nous proposes comme écoute?
Attends une seconde, on est allé avec Boris Vian, il y a mon oncle Serge, et voyons...
Les colocs?
Oui, les colocs. Allons-y avec le centre d'achat. Oui, j'adore cette chanson.
Voilà, bien, on t'offre ça pour te remercier de cette présence incendiaire sur nos ondes rebelles ici à CKUT 90.3 FM, l'émission Lendemain la veille.
Petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz-bar, la caisse pop, le croque-mort et le magasin général. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en beau joie-le-vert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me faisait mal. Il est tombé une bombe sur le principal depuis qu'ils ont construit le centre d'achat.
Ouais!
Une bonne journée, je y retourne avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en baissé, des cousines en visite.
McDonald's. Voici Patrick Esposito di Napoli. On peut rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi. Et le motel est démoli. Ah, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il tombe une bombe sur la rue principale depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, ah! Une bonne journée, j'y retourne avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer. Petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le casse-mort, la caisse-pop, le croque-mort, et la magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Y est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat.
Toujours à l'écoute de la main de la veille sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Et après une petite pause musicale, Ramon est de retour parmi nous avec sa chronique hebdomadaire. Re-bienvenue, Ramon.
Bonjour, Tamara. Alors voilà, pour les bandes dessinées, livres jeunesse qu'on va avoir ce matin au lendemain de la veille, on va partir avec un livre qui s'appelle Kim. K-H-I-E, avec un chapeau, donc un chapeau, c'est quoi? C'est
un tréma? Non, c'est pas un tréma.
Non, c'est l'autre.
C'est l'autre.
C'est le... Bon, ben, en tout cas, avec un petit chapeau, hein, tout le monde comprend ça.
Accent circonflexe?
Et ça finit par M, Kiem, K-H-I-E-M. Et on parlait un peu plus tôt avec... Jean Goldstein du Vietnam, eh bien, on s'en va dans le Vietnam à partir des années 40 et 50 et on va aller jusqu'aux années 2000. Et ceci à travers trois générations de femmes. Le livre s'intitule donc « Kiem, terre maternelle ». Terre étant pluriel et maternelle également. Ce livre-là est publié chez Glénat au Québec et c'est un frère et une sœur qui ont écrit conjointement ce livre sur leurs origines. Il s'agit de Djibril, pour le dessin, comme ça se prononce, Djibril, et Yasmine, qui, elle, écrit donc sur sa mère, sa grand-mère et sur elle-même. Et leur nom de famille est Fan Morissette, P-H-A-N, et Morissette, un bon vieux nom québécois, si on peut dire. Alors voilà, ce livre-là est entièrement en noir et blanc. Djibril, le frérot, lui, dessine notamment des super-héros pour des maisons d'édition américaines. Ici, disons qu'on a toute sa science du dessin de style américain sur des pages complètes. Il n'y a pas vraiment de cases, jamais, dans ce livre-là. Le tout se déroule soit sur une page complète ou à l'occasion même sur une double page. Et souvent, les personnages sont comme... On a une impression qu'on regarde à travers un miroir déformé, un miroir qui a une courbe dedans. On commence donc dès le début avec ceci. Quand les hommes seront fatigués de faire la guerre, ils feront la paix. En attendant, j'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Alors voilà, ça commence comme ça, donc, avec la grand-mère qui écrit. Les chapitres comme ça vont aller de loin en loin à l'histoire de cette grand-mère qui a eu la surprise de voir le petit frère vendu tellement qu'il était mal pris pour manger. Elle a dit à ses filles, on va aller racheter votre frère, on peut pas faire ça, vendre son frère pour manger. C'est une histoire, donc, qui est extrêmement poignante dès le départ. Et le rachat de ce frère-là pour une famille qui crève de faim, c'était pas une mince affaire en partant. Et ensuite de ça, une des filles, justement, de cette mère-là ou de cette grand-mère-là, c'est selon si on prend que c'est l'auteur, l'autrice, en fait, elle va être envoyée au Canada pour essayer de faire des sous et pouvoir amener la famille dans un monde qui lui serait un peu plus doux. Alors, c'est quand même une charge gigantesque qu'a eu sa mère, la mère de Yasmine, donc, de venir au Canada, d'être adoptée d'une certaine façon, de faire des études et de parvenir à faire venir sa famille. Et pour ce faire, elle a écrit un livre sur l'immigration qu'elle présentait avec ses parents adoptifs un peu partout au Québec et elle demandait si les gens pouvaient donner des sous. Elle a fait donc la quête carrément pour faire venir sa famille ici, au Québec, à Montréal, comme ça. C'est une histoire, donc, je le répète, extrêmement poignante, une histoire édifiante aussi, parce que c'est une histoire qui n'est pas facile dans le sens où on est vu comme étranger, mais en même temps, il faut se reconstruire dans un autre lieu. Kim, père maternel de Djibril et Yasmine Fan Morissette chez Glénat, un très beau livre en noir et blanc, un livre donc une de ces multiples histoires d'immigration, mais celle-ci, bon sang qu'elle parle, qu'elle est éloquente, et je qualifierais ce livre-là d'une réussite totale, autant sur le plan graphique, sur le plan scénarique, que sur le plan du fond, qui est l'histoire elle-même d'immigration. Donc, un livre que je ne peux que recommander. Un autre livre, celui-là, ici, est en couleur. C'est un livre sur la guerre, mais un livre aussi sur l'immigration. Ça s'intitule « Rhapsody en bleu ». C'est un livre de Andrea Cirio. C'est publié chez Futuropolis. Andrea Cirio, c'est un garçon, c'est un Italien d'origine. Il s'est inspiré d'un roman de Sylvia Cutin, C-U-T-T-I-N, pour écrire cette bande dessinée. Quand on dit écrire, on parle définitivement de roman graphique. C'est dessiné de façon pourtant réaliste, mais en même temps, il y a un aspect très contemporain, très contemplatif. On a des paysages, on a des images très souvent muettes, des paysages éthérés, très, très, très résumés, des paysages avec peu de détails. L'aspect, donc, de coloriage au crayon de bois donne un côté très chaud à cet album-là, malgré justement qu'il soit très, qu'il soit véritablement une synthèse d'image. Rhapsody en bleu, c'est l'histoire donc d'immigrants, de jeunes immigrants aux États-Unis, à Manhattan plus précisément, et c'est l'histoire plus précisément d'un jeune homme qui va s'enrôler dans les chasseurs alpins, c'est-à-dire des soldats qui travaillent sur des skis dans les Alpes, et qui va tenter donc, à la Deuxième Guerre mondiale, d'aller combattre le fascisme que fuit en Italie. Et malheureusement, c'est encore une histoire tragique, il n'en reviendra jamais. Il va mourir pendant cette guerre. Alors, ce livre est bâti à partir de lettres d'une correspondance avec sa cousine à l'époque, et le roman avait donc été écrit comme ça, et l'auteur, Andrea Cirio, pour écrire Rhapsody en bleu, publié chez Futuropolis, est reparti de ça. Très beau livre, un livre qui nous permet de voguer dans une espèce d'imaginaire mélancolique, un peu triste, mais en même temps, avec un certain aspect de retourner finalement à la terre d'accueil. Rhapsodie en bleu d'Andrea Serio, publié chez Futuropolis. Tant qu'à être aux États-Unis, peut-être, mais qui faisait des allers-retours à l'Europe, peut-être parler d'un livre jeunesse qui a été traduit de l'anglais, de l'américain, des États-Unis. Il s'agit de Toc, 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 Papa, où es-tu? C'est publié chez l'éditeur français Little Urban et les auteurs sont deux Afro-Américains qui sont Brian Collier et Daniel Beatty. Alors, sur la page couverture, on voit de dos un papa avec un grand gaillard qui semble assoupi sur son épaule. Et on voit une porte. Le livre, en réalité, et un peu au départ, un livre jeunesse qui serait tout à fait ordinaire et pas inquiétant du tout. À chaque fois, le papa cogne à la porte le matin de la chambre du garnement et procède d'une certaine façon à l'éveil de sa journée. Soudainement, il y a une rupture. Il n'y a plus de toc-toc-toc. Et de là, dans le titre, Papa, où es-tu? Le père est disparu, la figure paternelle s'est effacée dans la vie de cet enfant-là. Alors voilà, le livre, en réalité, amène donc l'enfant à imaginer ce père disparu. Disparu où? C'est ce qu'on comprend tranquillement, c'est que beaucoup trop d'Afro-Américains, proportionnellement à leur espace, à leur proportion dans la population, sont emprisonnés, sont donc arrachés à leur famille. Et c'est ça dont fait écho le livre « Toc, 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 papa, où es-tu? » Un livre extrêmement émouvant, un très beau livre, dessiné d'une certaine façon, de façon traditionnelle, mais aussi avec un côté contemporain, avec l'amalgame de collages et des couleurs qui, bon sang, rappellent certainement l'Afrique. En fait, l'aspect afro-américain du livre est certainement très présent dans les illustrations de ce livre-là, qui est une véritable œuvre d'art avec le dessin traversé des collages. Toc, 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 papa, où es-tu? Publié chez Little Urban par Brian Collier et Daniel Beatty. Pour s'achever, je vous propose un livre jeunesse ou un livre pour tous. Ça s'intitule « C'est quoi l'amour? » C'est publié dans la collection Griffe de l'éditeur québécois Isatis, I-S-A-T-I-S, par deux autrices qui font tandem depuis trois livres maintenant. Il s'agit de Lucille de Pesluan et de Geneviève Darling. Alors, les deux ont commis ensemble deux autres bouquins auparavant. Elles ont commis « Pourquoi les filles ont mal au ventre » qui est vraiment sur « C'est quoi biologiquement être une femme? » Et ils ont fait aussi « J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas » sur la douleur qui peut traverser certaines personnes à différents moments de leur vie. Dans le cas du livre qu'elles viennent de sortir, alors cette nouveauté-là, « C'est quoi l'amour? » Lucille de Pesluan et Geneviève Darling proposent toujours, d'une part, des illustrations très douces, des illustrations avec des teintes pastels, beaucoup de mauve, de bleu, de rosé, voire de vert. Et la définition qu'elles amènent de l'amour est une définition très vaste, une définition pour le moins inclusive. Par exemple, une double page s'intitule « L'amour, c'est la justice sociale » en citant James Baldwin. « On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. » Alors voilà, il est question donc aussi d'acceptation des différences, il est question aussi d'identité à travers l'amour. S'aimer, c'est s'entourer de gens qui nous soutiennent et qui nous élèvent. Donc, c'est une définition donc, qui est vraiment enrichissante de l'amour dans la lecture que j'ai pu en faire pour ma part, et les illustrations sont à l'avenant. Donc, le livre s'intitule « C'est quoi l'amour? » publié dans la collection Griffe chez l'éditeur Isatis par les autrices Lucille de Besluan et Geneviève Darling. Pour mettre une petite touche musicale à cette proposition de lecture et de visionnement, si on peut dire, parce que l'aspect graphique est fondamental dans ces propositions-là, je vous propose d'écouter Violette P, qui est sur étiquette LABE, et c'est tiré de l'album Manifeste contre la peur. Et la pièce est vraiment très belle et sous forme métaphorique. Et elle s'intitule « Hors de la portée des humains » sur CKUT 90.3 FM. Merci Tamara de ton accueil et une excellente journée à tous et à toutes.
Dans un jardin de talent, entre l'hibiscus et les poires cactus. Mais les poires cactus, ça pique comme les abeilles en rage de sexe au beau milieu des allergènes de pollen de pêche. Non, non, non,
personne n'aime quand ça déchire la peau de puce des filles. Même en prose de vierge férile. Non, non, non,
elle n'a pas le temps de voir, pas le temps de concevoir. Elle n'a pas le temps de voir, pas le temps de concevoir. Elle n'a pas le temps de voir, pas le temps de concevoir. Il faut que ça bouge. Elle n'a pas le temps de voir.
Thank you. New York, this is Democracy Now!
Get off the property! The police are coming!
Why are you evicting someone in a pandemic?
As COVID cases and deaths shatter world records in the United States, millions of people risk losing their homes in the middle of the pandemic. As a federal moratorium on evictions is about to end, we'll get the latest. Then we'll speak to indigenous activist Winona LaDuke about Joe Biden's selection of Deb Haaland to be the first Native American to serve as Interior Secretary. We'll also look at the ongoing protests against the Enbridge Line 3 pipeline in Minnesota.
We're asking you to come to the river and pray. You know, there are a lot of people up here, and there need to be more. This is our river. These are public lands that they are taken for this Canadian multinational corporation.
Then a shocking new expose in The Intercept reveals CIA-trained and funded death squads have targeted Islamic religious schools in Afghanistan, killing boys as young as 8 years old.
These militia networks have been implicated, according to our reporting, in a number of incidents, including summary executions, massacres, bombing of civilian houses, mutilations.